les Dinois ont retrouvé les Beatles sur grand écran.
La projection unique dans les Alpes de Haute-Provence du film de Ron Howard, 8 Days a Week, The Touring Years, a eu lieu à Digne au Cine-Étoile. Revoir les Fab Four unis et qui se protégeaient les uns les autres contre les curieux a redonné une seconde jeunesse aux mélomanes sortis ce soir-là. Les Beatles étaient des bêtes de scène et au début de leur carrière, il leur arrivait même de faire jusqu'à 3 sets par jour. Ce rythme effréné atteint son paroxysme avec leur succès phénoménal aux États-Unis. Les tournées se succèdent et épuisent les stars au point de les dégoûter et les écarter de la scène. Il faut dire que la technique de l'époque pour sonoriser les stades dans lesquels ils jouaient n'a rien à voir avec les techniques et matériels actuels et pour ce qui est de s'entendre jouer et chanter, le problème, comme le spectacle, était surdimensionné. À Digne, après la projection, Jean-Pierre Bouillot, fan du célèbre groupe de Liverpool, répond aux questions de Jean-Marc Leca sur les Beatles et cette époque révolue.
Jean-Pierre Bouillot, événement exceptionnel à Digne-les-Bains pour la sortie du dernier film de Ron Howard, The Beatles, 8 Days a Week, The Touring Years. Qu'avez-vous pensé de ce film ?
C'est un très bon film qui retrace bien la carrière des Beatles avec toute la pression qu'ils ont pu subir lorsqu'ils ont décidé de stopper les concerts parce qu'il y avait une accumulation énorme de concerts et les conditions techniques et de sécurité, on pourrait dire, n'étaient plus vaillantes. Donc après, ils se sont effectivement repliés sur une activité studio qui a été beaucoup plus intéressante, musicalement parlant, sur les albums.
Pour les musiciens qui étaient les Fab Four, ils avaient vraiment beaucoup de difficultés à s'entendre sur scène aussi. Et puis c'était devenu, comme ils disent, des bêtes de foire.
Tout à fait. Il faut se rappeler qu'à l'époque, les systèmes de sonorisation étaient loin de ressembler à ce qu'on peut connaître aujourd'hui. Et que notamment, dans les différents concerts qu'ils ont pu faire, ils n'avaient aucun retour de scène. Ce qu'on appelle un retour de scène, c'est le son des musiciens proprement dit qui revient sur les musiciens pour qu'ils puissent s'écouter jouer. Et là, donc, c'était pas du tout le cas. Donc, peu cher, ils avaient qu'un gros ampli et ils jouaient sans s'entendre, y compris pour les harmonies vocales. Et bon, on peut malgré tout le considérer que, en voyant le film et en voyant la bande son, ils se sont quand même très très bien débrouillés et ils avaient quand même une très très bonne connaissance de leurs morceaux et de la façon de les jouer.
Oui, pour nos auditeurs, 100 watts aujourd'hui, c'est peu, mais à l'époque, c'était beaucoup.
Voilà, il faut se dire qu'aujourd'hui, un groupe de rock, c'est une sonorisation, c'est des milliers de watts, avec, bien sûr, dans la salle, ou tout au moins dans le stade, des pupitres de mixage, des gestionnaires des lumières, ce qui, bien sûr, n'existait pas à l'époque.
Dans ce film, 8 Days a Week, The Touring Years, qui s'est achevé pour les tournées en 1966. On voit que quand ils sont allés dans le sud des États-Unis, ils ont pris position.
Ils ont eu notamment beaucoup de soucis. Donc, bien sûr, dans le sud des États-Unis, où ça a été un des premiers groupes à réclamer, qu'on pourrait aujourd'hui appeler l'anti-apartheid, lors des concerts. Il faut se rappeler que dans les années 60, les États-Unis, et plus particulièrement le sud, étaient encore des États extrêmement racistes, où existaient aussi bien pour les moyens de transport que pour toutes les vicissitudes de la vie, des séparations flagrantes entre les Noirs et les Blancs. Effectivement, on peut considérer que les Beatles, lorsqu'ils ont fait leur tournée aux États-Unis, ont contribué à l'éclaircissement de la situation avec la population noire.
On se rend compte dans le film que les événements les ont un petit peu dépassés quand même, qu'ils gagnaient beaucoup d'argent, mais que ça suffisait pas pour qu'eux prennent leur plaisir.
Voilà. Alors, effectivement, ils ont gagné beaucoup d'argent. Ils n'en ont pas gagné autant dans la période Beatles, proprement dit, qu'on aurait pu imaginer. Parce que les contrats qui avaient été signés à l'époque par Brian Epstein, par Parlophone, donc leur première maison de disques, c'est des contrats qui, en termes de revenus, ne devaient leur octroyer sur un disque vendu que 1% ou 0,5% du bénéfice. Le reste étant, bien entendu, distribué entre les différents protagonistes de l'affaire.
Et des deux Beatles qui restent, il y a Ringo Starr et Paul McCartney qui étaient interviewés. Ils ont encore la fibre quand même.
Alors bon, Paul McCartney et Ringo Starr tournent encore beaucoup actuellement. ces gens-là, s'ils continuent à tourner à aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont toujours la fibre musicale et parce qu'ils ont toujours envie de jouer. Et ils ont surtout, je pense, envie de toujours faire plaisir à leurs spectateurs. Parce qu'il ne faut pas oublier que les gens qui... On l'explique bien dans le film, d'ailleurs. Il y a deux, trois répliques qui l'expliquent bien, où il y a quand même notamment un profond respect du spectateur qui paye sa place de concert pour aller assister à un spectacle. Parce que désormais, un concert de musique, c'est devenu un spectacle. Ce qui n'était pas le cas à l'époque des Beatles, où là, on parlait uniquement de musique, ou tout au moins de ce qu'on pouvait entendre à travers la foule et à travers les faibles systèmes d'amplification de l'époque. Faire une différence entre Paul McCartney et Ringo Starr, je ne la ferai pas. Ils ont chacun choisi une orientation de carrière différente. Paul McCartney restera toujours un fabuleux mélodiste, et un très très bon chanteur, alors que Ringo Starr, ben lui, restera toujours un personnage extrêmement attrayant en termes d'individu, qui lui vaut une notoriété importante chez ses collègues musiciens. Et donc, il continue, lui aussi, à jouer régulièrement avec ce qu'on peut appeler de bonnes figures de la musique actuelle.